9h40, merci d'accueillir l'Instant M dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Il y avait 3 prévenus dans un box luxembourgeois, 2 lanceurs d'alerte et un journaliste accusé d'avoir commandité les fuites et manipulé ses sources. Le journaliste, c'est vous, Édouard Perrin, bonjour.
Bonjour.
Ces révélations ont eu lieu en 2012 au cours de l'émission Cache Investigation sur France 2. 350 sociétés échappant aux impôts, le scandale des LuxLeaks et un cabinet, PricewaterhouseCoopers, directement mis en cause qui a porté plainte. Le procès s'est achevé hier. Vous nous accordez votre première interview. À vos côtés, votre confrère Laurent Richard, bonjour.
Bonjour.
Également de la bande à Cache Investigation. Vous étiez dans la salle quand Édouard Perrin était à la barre et vous n'êtes pas trop de deux pour nous brosser ces audiences qui ont démarré en pleine affaire Panama Papers et surtout 10 jours après le vote d'une loi protégeant le secret des affaires.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Vous regardez un journal en plus de 140 caractères. Bonsoir. Canal+ perd de l'argent et des clients. 415 000 abonnés envolés en un an, 183 000 en 3 mois, 59 millions d'euros de pertes au premier trimestre et toujours un trou de 400 millions envisagé à la fin de l'année. Je vous rassure, Vivendi, sa maison mère, n'en demeure pas moins très riche avec 5 milliards d'euros de trésorerie disponible, il est bon de le rappeler, mais le groupe continue de maintenir la pression sur l'autorité de la concurrence. Et bah oui, l'euro, ça va commencer bientôt. Canal attend le feu vert pour diffuser sa chaîne rivale, beIN Sport. S'il ne l'obtient pas, son actionnaire, Vincent Bolloré, menace de fermer des chaînes. Alors ça remue sec à l'Obs. Les propriétaires du groupe Le Monde maintiennent son directeur, Mathieu Croissando, qui limoge ses 2 adjoints et affronte le vote d'une motion de défiance aujourd'hui de la part de sa rédaction. Il annonce pour la mi-juin des aménagements dans cette nouvelle formule qui n'a pas réussi à enrayer la chute des ventes. Quant à l'hebdo, son positionnement n'est pas clair, manifestement. Croissando explique au Figaro « Nous sommes le magazine de la gauche progressiste, réformatrice et européenne. Nous ne sommes pas la gauche du statu quo. » Bref, une rédaction qui se déchire exactement à l'image du PS en ce moment. House of Cards, l'une des meilleures séries politiques de l'histoire de la télé. La trajectoire cynique et saignante du sénateur Frank Underwood jusqu'à la Maison Blanche. Personnage de fiction, donc, qui a adressé hier un tweet taclant Manuel Valls sur son utilisation du 49.3. Eh bien, croyez-le ou pas, notre Premier ministre a répondu de rechef à ce faux président américain. C'est bien joué de la part des producteurs de la série. Pour ce qui est du chef de l'exécutif français, c'est drôle. Et en même temps, franchement, consternant. On est pris de vertige tant les réseaux sociaux et l'industrie du spectacle sont devenus le socle de l'image en politique. Obama, évidemment, n'aurait pas hésité non plus. Lui qui restera l'un des meilleurs showmen de la télévision américaine.
Comment démonter cette mécanique sombre et secrète de la finance mondiale? Pendant des semaines, on a essayé de trouver des preuves. Et puis un jour, nous finissons par rencontrer une source. Anonyme, évidemment. Avec elle, des révélations exceptionnelles vont tomber. Sous forme d'un gros dossier. 47 000 pages de documents, ultra confidentiels. Accompagnés de schémas tous plus compliqués les uns que les autres. Du chinois pour nous.
Et nous revoici plongés en mai 2012 sur France 2, un cache investigation consacré donc à l'histoire de ces 350 sociétés qui échappent à l'info avec évidemment toute la bienveillance et la validation de l'administration luxembourgeoise. Le tout négocié par une firme, un grand cabinet d'audit qui s'appelle PricewaterhouseCoopers et que Édouard Perrin vous désignez nommément dans ce documentaire diffusé sur France 2. Alors c'est l'affaire des LuxLeaks, derrière il y a 80 médias qui ont relayé cette fuite de documents, 30 000 documents entre vos mains, qui ont poursuivi les investigations dans 26 pays via ce grand consortium de journalistes d'investigation réunis à l'international, dont on a encore beaucoup entendu parler avec l'affaire des Panama Papers, et dont Première Ligne Télé, qui est votre société de production à tous les deux, fait partie. Alors j'aimerais que vous nous décriviez l'un l'autre l'ambiance de ce procès qui s'est ouvert il y a 3 semaines. C'est long, hein, Édouard Perrin, vous avez l'air fatigué d'ailleurs.
Je suis fatigué.
Vous êtes fatigué, c'est long, 3 semaines d'audience. Ouais. Hein, voilà. Alors, ça a démarré avec une salle comble, c'est ça? Et puis beaucoup de journalistes, Laurent Richard, vous étiez dans la salle?
Oui, j'étais dans la salle, puis on s'est relayé à Première Ligne pour aller supporter, soutenir Édouard et les autres prévenus, évidemment. C'est un procès un peu particulier. Pour le Luxembourg, c'est extrêmement important. Il y a une grande partie de sa population qui travaille dans ces secteurs-là, dans le secteur de la finance. Donc c'est pour le Luxembourg important d'instruire ce procès et aussi de montrer qu'il ne faut pas révéler les secrets des affaires. Et donc Édouard Perrin, lui qui était journaliste, n'a fait que son travail de journaliste. Donc on avait le sentiment effectivement que c'était le journalisme qui était mis en accusation. Donc c'est un procès extrêmement important, c'est presque un procès de société, c'est presque aussi un procès politique. C'est-à-dire qu'on est au cœur de l'Union européenne, dans un pays fondateur de l'Union européenne. Et en même temps, on juge de qu'est-ce qui relève de l'intérêt général. Est-ce que des entreprises peuvent échapper à l'impôt? Est-ce que ça va à l'encontre de tout le monde? Est-ce que ça vide les caisses de l'État? Et est-ce qu'on peut se permettre de le révéler?
Alors, je le disais, il y avait 3 prévenus, Antoine Deltour et Raphaël Halley, qui sont les 2 lanceurs d'alerte, ceux qui ont exhumé ces documents que Pricewaterhouse ne voulait surtout pas voir sortir. Et puis vous, en gros, les réquisitoires, c'est 18 mois de prison, demandés par le parquet à l'encontre de ces 2 lanceurs d'alerte. Et à votre égard, Édouard Perrin, une amende. Alors, une amende sans montant, sans échelle, ça veut dire quoi une amende?
Alors, en théorie, l'amende, je crois, la plus importante concernant des chefs d'inculpation, qui est le blanchiment des tensions, elle peut monter jusqu'à plus d'un million d'euros.
Donc c'est ce que vous encourez là?
C'est ce que je pourrais encourir. Après, le procureur a demandé pour les prévenus des amendes qui soient proportionnées. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire non plus.
Alors proportionnées à quoi? Parce que est-ce que cette amende, c'est vous qui la payerez? Est-ce que c'est la société de production?
Non, c'est moi qui suis prévenu. Donc c'est pas.
C'est vous. C'est pas ni Première Ligne TV, ni France Télévisions, d'accord, ni Delphine Ernotte.
Non,
c'est
voilà,
vous.
Voilà, c'est un procès de presse.
Après, il y aura un soutien. Enfin, c'est... Édouard a fait ça dans le cadre de Première Ligne pour Cache Investigation, donc c'est évidemment pas Édouard qui va payer personnellement une amende.
Non, si enfin, c'est à vous.
Voilà, c'est pas comme un procès en instruction où c'est un directeur de publication qui est aux côtés du journaliste. Non, là, c'est très différent.
Alors, verdict le 29 juin, donc la partie civile, c'était PricewaterhouseCoopers, ce qui est extrêmement intéressant là-dedans. On va parler du cas, évidemment, des lanceurs d'alerte, mais ce qui vous est reproché, Édouard Perrin, c'est d'avoir orchestré ces fuites, c'est d'avoir manipulé ses sources, c'est d'avoir commandité ses fuites. Ce que vous contestez de bout en bout, et je
alors
puis
ça,
lire...
c'est intéressant parce que l'histoire de l'orchestration, du contrôle de la part du journaliste sur la source, Raphaël Halley en l'occurrence, puisque moi je n'étais pas du tout impliqué dans ce procès pour ce qui est du volet Antoine Deltour. Le contrôle en fait et la théorie de l'orchestration est tombée en novembre dernier. Quand la chambre d'accusation au Luxembourg a fait un non-lieu partiel me concernant pour ce qui est vol et complicité. Et en fait, toute la théorie du parquet luxembourgeois, qu'ils avaient même affiché dans un communiqué de presse pour justifier mon inculpation en avril, est tombée. On n'a pas communiqué à l'époque là-dessus parce que on voulait pas communiquer avant le procès, mais on a dû le rappeler à de nombreuses reprises pendant le procès. Parce que même le commissaire de police qui a mené l'enquête a continué sur cette thèse-là. Le procureur essayait d'utiliser cette thèse-là pour étayer ses réquisitions, mais ça ne tenait pas, puisque j'étais plus inculpé pour cela.
Alors,
et en fait, au final, la seule chose qui m'est reprochée, si vous faites bouillir le tout et le faites réduire, c'est la création d'une boîte morte de mail pour sécuriser ma relation avec Raphaël Halley.
Avec Raphaël Halley.
C'est en gros la seule
chose. Pour
les
auditeurs d'Inter qui n'auraient pas suivi ce feuilleton en plusieurs étapes, Laurent Richard, vous voulez bien replanter le décor. Ça commence avec un lanceur d'alerte qui s'appelle Antoine Deltour, qui est un ancien auditeur de PricewaterhouseCoopers, il n'y est plus évidemment aujourd'hui, et qui exhume 30 000 pages de documents.
En fait, ça commence avec un lanceur d'alerte, et puis après, avec deux lanceurs d'alerte, ils ont des informations.
En fait, il y a eu deux films. Hein. Il y a eu celui de 2012 films. Et
c'est pour ça, on commence par le premier.
Il y a eu un premier film pour Cache Investigation avec une source qui a des documents et qui est choquée par ce qu'il voit, qui travaille tous les jours dans une entreprise qui fait des arrangements avec des entreprises du monde entier, et notamment des entreprises françaises. Et les arrangements que cette entreprise propose, ce sont des arrangements qui permettent à une entreprise, quelle qu'elle soit, de payer, d'échapper à l'impôt, de payer moins d'impôts en France pour en payer beaucoup moins au Luxembourg. Cette source est choquée par ce qu'elle voit. Elle se dit que ça va à l'inverse de l'intérêt général, à l'inverse de l'époque que l'on vit, où on se dit qu'il y a un principe de solidarité fiscale qui est évident et que tout le monde doit respecter, les particuliers comme les multinationales. Et donc cette source-là...
Vous dites encore ouais. Cette source, parce que oui, parce à l'époque, Édouard Perrin, en 2012, vous ne donnez pas dans Cache Investigation le nom d'Antoine Deltour.
Le secret des sources. Quoi.
Le secret des sources. Quand est-ce que le nom d'Antoine Deltour est sorti, Édouard Perrin?
Il est sorti quand il a été tout simplement inculpé.
Inculpé, voilà.
Par le Luxembourg. Je crois que c'était en octobre 2014 ou
donc
novembre.
Mai 2012, le Cache Investigation est diffusé sur France 2. Et là, un autre employé de PricewaterhouseCoopers, Raphaël Allais, regarde la télévision, comme nous tous. Et puis, c'est le déclic. Et il se dit qu'il va faire son devoir de citoyen.
Voilà. Et donc, il contacte Première Ligne pour chercher à me contacter. Il m'envoie un mail. Ça devait être le deuxième ou le troisième mail. Il dit, voilà, je participe à ça. Je ne vis pas ça bien. Moi, je veux dénoncer ce scandale et une relation commence.
Et il vous remet 16 déclarations fiscales.
Bien plus tard, ouais.
Bien plus tard.
Ouais,
bien
des
plus
mois
tard.
Plus tard, ouais.
Voilà,
de
clients. Et là aussi, il y a eu une discussion. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé tel et tel document sur telle et telle société?
Enfin, il n'y a pas de discussion, parce que si vous prenez toute la chaîne de mails, c'est lui. Bon, déjà, il est lorrain, donc ArcelorMittal, c'est quelque chose qui, à l'époque, qui est Florange et tout, qui est évidemment dans l'actualité. Donc, c'est une des premières sociétés qu'il évoque. Il évoque IKEA, il évoque Amazon de lui-même. Le procureur et la juge d'instruction ont pris un mail de décembre 2012 pour tenter de donner vie à leur théorie, quoi. Alors, en fait, la relation avec Allais, elle dure sur des mois.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est donc toute la relation entre le lanceur d'alerte et le journaliste qui est au cœur de ce procès, Laurent
Bichard. Pour bien comprendre, en fait, le Luxembourg, ce qu'ils ont essayé de faire, en tout cas, la justice luxembourgeoise, elle a essayé d'incriminer Édouard en faisant passer Édouard pour l'instigateur, enfin, pour celui qui avait tiré les ficelles et qui avait manipulé ces sources-là en leur demandant d'aller chercher précisément les documents, cette source-là, en lui demandant d'aller chercher des documents pour nourrir son enquête, mais comme s'il était le commanditaire d'un vol. Et en fait, parce qu'ils cherchaient donc à faire d'Edouard quelqu'un qui n'avait pas agi en tant que journaliste, mais en tant que commanditaire d'un vol. Ils étaient gênés, en fait, avec la vraie fonction d'enquêteur, d'investigateur, journaliste d'Edouard Perrin.
Je voudrais qu'on écoute Vincent Payon, qui fait partie des députés de la gauche française qui ont voté tous comme un seul homme cette loi sur le secret des affaires.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Moi, je l'ai voté parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 5 pays dans lesquels il y a une procédure pour protéger les lanceurs d'alerte. J'ai toujours protégé ces gens-là, combattu pour eux, et je les connais bien. Donc, aujourd'hui, il n'y a que 5 pays qui protègent. Avec cette directive, il y a plus.
Et telle qu'elle a été conçue là, y compris...
Non, mais je veux le dire parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Je n'ai pas la même lecture de cette directive. Je suis prêt à argumenter longuement. C'est un progrès, y compris dans la protection des journalistes.
Voilà, Laurent Richard, Édouard Perrin, ça le rend dingue.
C'est Orwell, c'est la paix, c'est la guerre. Ouais. Enfin, on a une directive sur le secret des affaires qui devient un outil de protection des lanceurs d'alerte. Mais c'est plus de la sémantique, là. Enfin, c'est...
Eh bien, faisons de la pédagogie, voilà. Laurent Richard, si vous le voulez bien, parce qu'au cœur de cette directive sur le secret des affaires, on dit, mais non, on protège les lanceurs d'alerte, on protège les journalistes. Du moment qu'ils agissent dans l'intérêt général, à vous de prouver que vous agissez dans l'intérêt général.
Alors, on va prendre un exemple extrêmement concret. L'exemple dont on parlait, il y a 24 secondes, c'est-à-dire LuxLeaks, donc c'est-à-dire un journaliste, des lanceurs d'alerte qui révèle des pratiques qui sont contraires à l'intérêt général, ça s'appelle l'évasion fiscale. Est-ce que l'optimisation fiscale de Price ou l'évasion fiscale, c'est illégal ou pas? C'est pas à nous d'en décider, c'est à un juge. Et souvent, l'optimisation fiscale, c'est parfaitement légal.
Et on l'a vu dans les Panama
Papers. C'est totalement immoral et ça va à l'encontre de l'intérêt général. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est le procureur qui l'a dit en personne lui-même devant Édouard Perrin, il a dit que ce texte, texte, la directive secret des affaires était une bonne loi. Donc en fait,
le procureur luxembourgeois.
Donc ça veut dire que, par exemple, l'évasion fiscale pourrait relever du secret des affaires et on ne pourrait pas révéler Panama Papers, on ne pourrait pas révéler LuxLeaks. Donc la réponse, elle est chimiquement extrêmement simple.
Ni le Mediator, ni et le scandale Volkswagen, en fait, ni le scandale HSBC.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'infraction au secret des affaires ne commence pas à la publication. Il faut toujours revenir à ça. L'infraction commence à l'acquisition. C'est-à-dire, dès le moment où le journaliste entre en possession du secret,
bien sûr,
il est passible de poursuite. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes journaliste, vous avez des preuves sur quelque chose sur lequel vous enquêtez, vous allez chercher une contradiction. Donc vous allez contacter l'entreprise et donc vous allez dévoiler vos preuves. Qu'est-ce que va faire l'entreprise? Elle va commencer à vous poursuivre. Même si au final un juge, quelques mois ou quelques années plus tard, dira vous aviez raison. Ça vous aura coûté beaucoup d'argent, ça aura fait peur à beaucoup de patrons de presse, parce qu'on connaît la santé vaillante des entreprises de presse de nos jours. Voilà, c'est ça l'effet.
Première Ligne Télé fait partie d'un collectif qui s'appelle...
Informer n'est pas un délit, on se mobilise beaucoup justement pour...
Vous êtes adressé à François Hollande, au président de la République, en disant, mais vous remerciez les lanceurs d'alerte, alors protégez-les plutôt que de les remercier. Voilà,
on a rédigé une lettre ouverte à François Hollande pour lui demander de quel côté il se situait. En fait, est-ce qu'il se situait du côté de l'opacité, celle qui se déroule au Luxembourg, celle qui vaut à Édouard Perrin un procès, ou est-ce qu'il se place du côté de la transparence, de la solidarité fiscale et du rôle important qu'une société doit accorder aux journalistes ou aux lanceurs d'alerte qui vont prendre des risques pour dénoncer quelque chose qui va à l'encontre de l'intérêt général. On n'a eu aucune réponse. On a demandé un rendez-vous, on a eu zéro réponse. Là, on va rencontrer le directeur du cabinet de la ministre de la Culture et la ministre de la Culture très prochainement pour discuter de ça. Mais en fait, on est extrêmement inquiet parce que le 17 mai prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, l'État français va voter cette même directive. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un chef de l'État
Elle
sera appliquée en France, elle sera transposée. Il y a une marge de manœuvre extrêmement étroite. Sinon, la directive n'a plus de sens. Et cette directive, il faut bien comprendre, en fait, c'est extrêmement choquant d'entendre un député comme Vincent Payon qui s'est mobilisé contre les paradis fiscaux, qui a vraiment travaillé là-dessus, vouloir faire croire à tout le monde que cette directive va protéger les journalistes. Elle les expose. Elle est faite pour tuer l'investigation. Elle est faite pour dire à un lanceur d'alerte, n'allez jamais voir un journaliste avec un document.
La question de la relation que nous, le journaliste d'investigation, avec sa source. J'ai lu une excellente interview de William Bourdon, qui est donc l'avocat d'Antoine Deltour dans Libération, où il disait que finalement les lanceurs d'alerte ont fait le travail de certains journalistes ces dernières années et qu'il a vu des situations où les journalistes ont laissé tomber les lanceurs d'alerte après leur avoir siphonné leurs infos. Et il y a quand même là une responsabilité morale et éthique, Édouard Perrin, dans l'homme qui s'engage à vos côtés dans ces révélations.
Bien sûr.
Et extrêmement délicate, parce que c'est des gens derrière qui vont souffrir et qui vont se retrouver en place publique et qui vont subir beaucoup de choses.
Ouais.
Laurent Richard, c'est ce qu'on a appris aussi pendant le procès, c'est les méthodes de Pricewaterhouse pour les faire plier.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, les journalistes, finalement, c'est pas qu'on s'en sortira toujours, on est exposé, on est poursuivi dans les tribunaux, ça coûte beaucoup d'argent aux agences de presse, ces procès-là, et tout. Mais les lanceurs d'alerte sont ceux qui prennent les plus grands risques. C'est-à-dire qu'ils vont perdre leur métier. Ils vont pas pouvoir en retrouver un autre puisqu'ils auront parlé et finalement aucune entreprise ne va vouloir les embaucher ensuite parce qu'il va y avoir un petit problème de confiance. Ils vont être décriés, on va les décrédibiliser. Enfin, il va y avoir des armées d'avocats, c'est ce qui se passe concrètement tous les jours,
harcèlement.
Qui vont mettre un gros coup de pression sur la maison du lanceur d'alerte, sur son job et tout ça.
Un dernier mot, Édouard Perrin.
À cet égard, je voudrais préciser ce qui s'est passé pour le cas de Raphaël Allais. Raphaël Allais, il faut bien savoir quand même que sa maison a été perquisitionnée de manière privée suite à une ordonnance émise par un juge du TGI de Metz.
Un juge français
qui envoyait les gendarmes sur la base d'un document, d'une procédure de droit civil. Les gendarmes arrivent à son domicile. Tout commence comme ça. Il faut se mettre dans la tête de Raphaël Allais à ce moment-là.
Je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'avoir accordé cette interview à France Inter au retour du procès. Verdict le 29 juin. Si verdict il y a, on suivra l'affaire, évidemment. Bruno Duvic, vous êtes à Saint-Étienne, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien. Et oui, Un jour en France est en direct de Saint-Étienne dans les studios de France Bleu à la Cité du Design, dans ce qui était autrefois la manufacture d'armes. Alors, il y a 40 ans, cette ville était le centre de la France grâce aux exploits des Verts du foot. En même temps, commençait une longue phase de désindustrialisation. Aujourd'hui, comment va la ville? C'est la question que nous nous poserons. Beaucoup d'interlocuteurs, des reportages, de la musique et les auditeurs d'Un jour en France. 01 45 24 7000 et notre page sur franceinter.fr, Sonia.